Bonjour, Régis Coulange. Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits. Cette émission s'appelle « Pour la dignité ». Tous les derniers lundis de chaque mois, de 16h30 à 17h30 sur Fréquence Mistral 99.3.
Sur Fréquence Mistral 99.3.
Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Odile, bonjour Nicolas.
Bonjour.
Nous reprenons notre émission après une petite interruption due aux fêtes de fin d'année. Voilà, l'année 2016 reprend avec, comme vous pouvez vous en douter, beaucoup de travail pour Amnesty International. Et donc nous vous proposons dans cette émission de faire un petit bilan sur les 10 jours pour signer. Ensuite, nous parlerons de l'Irak et de la Turquie, en montrant un petit peu que dans ces guerres, il est très difficile de dire que d'un côté il y a les bons et de l'autre les méchants. C'est beaucoup plus complexe. On reviendra sur le problème de Guantanamo, qui n'est toujours pas fermé. On parlera de l'Arabie Saoudite, un an après la flagellation de Raif Badawi, où en est la situation des droits humains. Et puis des nouvelles donc d'une photographe là, qui était en mission pour Amnesty International et qui a été tuée dans un attentat avec son chauffeur. Et puis des activités du groupe. Voilà, alors pour commencer, je vais laisser la parole à Nicolas qui va un peu dresser le bilan des 10 jours pour signer.
Alors pour rappeler, les 10 jours pour signer, c'est une campagne qui est menée par Amnesty International tous les ans autour du 10 décembre, qui est la date anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, la campagne des 10 jours pour signer de 2015, nous avons été présents à le groupe de Digne d'Amnesty International avec l'antenne jeune qui s'est créée au lycée Pierre-Gilles de Gênes. Et donc on a été présent dans un premier temps le 10 décembre au lycée Pierre-Gilles de Gênes avec l'antenne jeune, et puis on a fait une journée à l'ESP qui est l'ex école normale qui est située à Digne-les-Bains, pour ensuite se mettre sur la place publique au boulevard Gassendi et puis à la médiathèque une semaine plus tard. Et du coup, toutes ces interventions que nous avons eues à Digne-les-Bains, nous avons récolté 2295 signatures papier, sans compter toutes les signatures sur Internet, en sachant que dans le monde, c'est 3 221 334 signatures qui ont été récoltées. Donc tout le long de l'année 2016, on continuera à agir pour ces 10 cas, dont je vais vous présenter 3 témoignages. Trois témoignages de gens, donc de 10 personnes, enfin 10 personnes qui dont on intervient pour les 10 jours pour signer. Donc je parle d'Albert Woodfox, qui est aux États-Unis enfermé depuis un certain temps, depuis 40 ans quand même à l'isolement, et qui a déclaré: je suis enthousiasmé d'avoir déjà reçu 2000 lettres de soutien. S'il vous plaît, transmettez mes remerciements et ma gratitude à Amnesty et à toutes ceux et celles qui ont écrit pour moi. Leurs lettres font la différence. Puis je fais le témoignage de Costa en Grèce. Toute cette mobilisation de gens de partout dans le monde est très émouvante. Après ce qui m'est arrivé, vous faites en sorte que les gens soient informés de toutes ces attaques homophobes et racistes largement ignorées. Vous les démasquez. Je me sens comme une sorcière traquée. Et puis Fio Fio Hang, qui est donc leader d'un syndicat étudiant au Myanmar, en Birmanie, qui est emprisonné et donc qui a déclaré: recevoir des lettres est une réelle source d'inspiration pour ce que nous faisons. Je commence à me rendre compte que le monde regarde et nous encourage. Nous ne sommes pas les seuls. Je vous remercie tous beaucoup pour votre soutien pour moi et notre mouvement. Bien que nous ne puissions pas encore voir les résultats au niveau du gouvernement, cela peut influer sur leurs états d'esprit. Vos lettres ne sont pas seulement des lettres, elles sont également de grands cadeaux et une grande force, non seulement pour les étudiants, mais aussi pour l'avenir de la Birmanie.
Voilà, alors ces témoignages nous encouragent à continuer notre action, hein, à toujours écrire. On a fait un peu le bilan l'année dernière, on s'est occupé, le groupe de Digne, à peu près de 200 actions urgentes, ce qui est énorme. Hein. Et de voir que les gens savent qu'on s'occupe d'eux et nous disent de continuer, ça nous encourage parce qu'on n'a pas toujours des réponses et on n'obtient pas toujours ce qu'on veut. Voilà, alors maintenant je vais vous parler un petit peu de l'Irak et de la Turquie. Et en fait, c'est pour montrer que le mal se trouve souvent des deux côtés. Et nous, à Amnesty International, on se fonde sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et on intervient chaque fois qu'il y a des violations graves des droits humains. Et alors, en même temps, dans la même période, on va être extrêmement critique sur l'action de Kurdes en Irak. Et en même temps, on va les soutenir en Turquie, les mêmes Kurdes, par rapport à l'armée turque qui a fait une offensive contre les zones, les zones kurdes, en mettant des dizaines de milliers de vies en danger. Voilà, alors, qu'est-ce qui s'est passé en Irak? On vient de sortir un rapport qui s'appuie sur des recherches réalisées sur le terrain, dans 13 villages et villes, et sur des témoignages recueillis auprès de plus de 100 témoins et victimes de déplacements forcés. Elles sont étayées par des images satellites, donnant à voir la destruction de grande ampleur semée par les Peshmerga, ou dans certains cas par des milices yézidis et des groupes armés kurdes de Syrie et de Turquie agissant en collaboration avec les Peshmerga. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Les forces armées du gouvernement régional du Kurdistan semblent être le fer de lance d'une campagne concertée visant à déplacer les populations arabes en détruisant des villages entiers dans des zones reprises à l'État islamique dans le nord de l'Irak. Le déplacement forcé de civils et la destruction délibérée de logements et de biens sans aucune justification militaire peuvent constituer des crimes de guerre. Voilà, alors autant on s'oppose bien sûr à l'État islamique, mais on va aussi critiquer ceux qui se battent contre l'État islamique s'ils commettent par exemple, des destructions de maisons, de villages entiers au bulldozer, qui sont constitués comme crimes de guerre. Des résidents arabes ayant fui leur domicile sont par ailleurs empêchés par les forces du gouvernement régional du Kurdistan de retourner dans les zones reprises. Des dizaines de milliers de civils arabes qui ont été forcés à fuir leur domicile en raison des combats ont désormais de grandes difficultés à survivre dans des camps improvisés où les conditions sont désespérées. Beaucoup ont perdu leurs moyens de subsistance et toutes leurs possessions et n'ont plus rien vers quoi se retourner, leur domicile ayant été détruit. En interdisant à ces personnes déplacées de rentrer dans leur village et en détruisant leur logement, les forces du gouvernement régional du Kurdistan accroissent encore leur souffrance. Voilà, parce qu'il ne faut pas s'imaginer que l'État islamique envahissant ces zones, tous les Arabes sont du côté de l'État islamique. Ce sont les premières victimes de ces terroristes. Et on ne peut pas tous les mettre dans le même sac, ni profiter de l'avancée des troupes contre l'État islamique pour détruire leur village. C'est toujours, en fait, dans les guerres, c'est toujours les civils qui trinquent. Voilà. Donc on s'est élevé contre ça. On a notamment le témoignage d'un père de 11 enfants qui a quitté son village et qui dit « Tout ce que je sais, c'est que quand les Peshmerga ont repris le village, les maisons étaient encore là. Nous ne pouvions pas rentrer chez nous, mais nous arrivions à les voir de loin. Et plus tard, ils ont détruit le village au bulldozer. Je ne sais pas pourquoi. Il ne reste rien. Ils ont tout détruit sans raison. » Voilà, alors comment c'est tout ça? Il y a les images satellites qui montrent bien que quand ils ont repris le village, les maisons étaient encore debout. Et d'autres images, un peu plus tard, tout était détruit. On a envoyé des chercheurs qui se sont rendus sur place, notamment au visage de Tabaj Hamid, qui a été rasé. Les chercheurs ont découvert qu'il ne restait de la majeure partie du village que des décombres, à Jumeli. Voilà, donc... un autre témoignage, après que nos logements ont été réduits en cendres, nous étions prêts à nous retrousser les manches et à les réparer, mais les Peshmerga ne nous ont pas autorisés à rentrer chez nous. Puis les milices yézidis sont revenus et ont tout passé au bulldozer, même nos vergers, il n'y a rien à sauver. Voilà. Donc les yézidis pour lesquels on s'était battu par rapport aux violences qu'ils subissaient, Voilà, donc on voit que la guerre entraîne des violences de part et d'autre, et plus ça s'éternise, plus les violences sont nombreuses. Voilà, et en même temps, on a aussi sorti un rapport sur l'offensive contre des zones kurdes en Turquie, qui met des dizaines de milliers de vies en danger. Hein, donc c'est une offensive qui est menée par le gouvernement turc contre des villes et quartiers kurdes, qui se traduit par des couvre-feux permanents, des coupures de services, met la vie de près de 200 000 personnes en danger et constitue une sanction collective. Voilà, donc on a fait des recherches dans les secteurs du sous-couvre-feu et les informations livrées par les habitants des zones inaccessibles aux observateurs extérieurs révèlent les difficultés extrêmes auxquelles ils sont confrontés du fait de mesures sévères et arbitraires. Voilà, donc genre de mesures, interdiction pour les ambulances de pénétrer dans les zones placées sous couvre-feu et de dispenser des soins aux malades, par exemple, des coupures d'eau, d'électricité, ainsi que les dangers encourus pour se procurer des vivres et des soins médicaux sous les tirs. Voilà, donc c'est toujours le personnel civil qui trinque. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu que le mal se trouve un peu des deux côtés, et on en reparlera en fin d'émission quand je vous présenterai un livre d'Amnesty. Voilà, on va peut-être maintenant écouter Leni Escudero, qui est un réfugié qui a fui l'Espagne franquiste quand il était tout enfant, et qui a fait une chanson qui s'appelle « Le siècle des réfugiés », il parlait du 20e, mais je crois que le 21e siècle, on peut l'appeler aussi le siècle des réfugiés, hélas. Voilà sa chanson.
J'ai vécu au siècle des réfugiés, une musette au pied de mon lit, avec la peur au ventre, des humiliés, des sans-logis qui tremblent, les oubliés au mal parti ressemblent. Ils sont toujours les bras ballants, d'un pied sur l'autre mal à l'aise, le cul posé entre deux chaises, tout étonnés d'être vivants. Ils sont souvent les en dehors, ceux qui n'écriront pas l'histoire, et devant eux c'est la nuit noire, et derrière eux marche la mort. Ils sont toujours les emmerdants, les empêcheurs, les troubles faits, qui n'ont pas su baisser la tête, qui sont venus à contre-temps. Dans tel pays c'est malvenu, venir au monde t'en prison. Mais chaque jour on te pardonne, puis on ne te pardonne plus. J'ai vécu au siècle des réfugiés, une musette au pied de mon lit, avec la peur au ventre, des humiliés, des sans-logis qui tremblent. Les oubliés au mal parti ressemblent. On peut souvent les voir aussi sur les photos des magazines, essayant de faire bonne mine, emmenez-moi au loin d'ici. Ils ont des trous à chaque main, c'est ce qui reste du naufrage. Ils n'ont pas l'air d'être en voyage, les voyageurs du dernier train. Ils sont toujours les séparés, le cœur perdu dans la pagaille, les fous d'amour en retrouvailles qui les ramènent sur les quais. Et puis parfois le fol espoir, si elle a pu, si elle arrive, de train en train à la dérive, et puis vieillir partir sans la revoir. J'ai vécu au siècle des réfugiés, une musette au pied de mon lit, avec la peur au ventre.
Il est encore temps d'agir pour la fermeture de Guantanamo. Alors, Guantanamo, l'administration du président Obama continue de se dérober à son devoir de traduire en justice les membres du système judiciaire qui ont autorisé et pratiqué la torture. Le refus actuel d'enquêter de manière approfondie sur les actes de torture, de traduire en justice et d'offrir des réparations aux victimes constitue une violation du droit international. Cela affaiblit chaque jour un peu plus l'influence et l'autorité morale des États-Unis. L'administration du président Obama n'a jusqu'à présent pas réussi à honorer sa promesse de fermer Guantanamo en tardant à autoriser le transfert des détenus, en s'opposant aux requêtes déposées par les avocats des détenus remettant en cause leur détention et en continuant d'avoir recours à des commissions militaires inefficaces et iniques, les actions de l'administration paraissent contraires aux objectifs qu'elles s'étaient pourtant fixés. Le mal causé par Guantanamo et par la torture ne pourra jamais être réparé, mais nous pouvons et devons faire ce qui est en notre pouvoir pour mettre définitivement un terme à ces pratiques. L'objectif de notre action est d'obtenir la fermeture de Guantanamo, de mettre un terme à la détention illimitée et de s'assurer que les fonctionnaires responsables d'actes de torture et de disparition forcée soient traduits en justice. Donc, il est possible d'interpeller le président Obama, car il s'est engagé à fermer Guantanamo et à mettre fin à la torture, mais il ne lui reste plus que quelques mois en fonction pour honorer ses engagements en traduisant les détenus en justice dans le cadre de procès inéquitables ou en les relâchant. En outre, il doit encourager son ministère de la Justice à étudier le rapport du Sénat sur la torture pour obtenir des preuves des crimes fédéraux qui garantiraient la réouverture des enquêtes et la poursuivre en justice des actes de torture. Donc, il est possible d'aller sur Twitter, donc qui est un réseau social, et d'interpeller le président Barack Obama pour respecter donc sa parole de fermer Guantanamo pendant qu'il est encore dans sa durée de mandat.
Voilà, très bien. Donc, vous allez sur le site d'Amnesty et vous verrez comment interpeller Obama sur Twitter pour fermer Guantanamo et puis lutter contre l'impunité américaine. Alors maintenant, un petit mot sur l'Arabie Saoudite. Vous savez qu'il y a un an, en janvier 2015, Raif Badawi recevait 50 coups de fouet. Il avait été condamné à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet à raison de 50 tous les vendredis. Les 50 premiers coups de fouet l'avaient laissé presque mort. Et il y a eu une manifestation très importante contre cette torture venant du monde entier. Il n'a plus reçu depuis ses coups de fouet, mais il est toujours condamné à 10 ans de prison et aux 950 autres coups de fouet. Tout ça pour soi-disant insulte à l'islam, alors qu'en réalité, il avait juste créé un forum en ligne dédié au débat public. Voilà, donc c'est un triste anniversaire. Hein. On a obtenu 170 000 signatures de pétitions pour la libération de Raif Badawi. L'ambassade d'Arabie a refusé de recevoir ces pétitions. Depuis cette date, l'Arabie Saoudite s'est caractérisée par sa répression persistante et généralisée visant les militants des droits humains. Ces nombreuses exécutions et une campagne de frappe aérienne au Yémen accompagnée de crimes de guerre. Donc le bilan en matière des droits humains est catastrophique pour l'Arabie Saoudite. L'année 2016 s'annonce elle aussi catastrophique. Ça repart comme c'était en 2015. Déjà avec l'exécution le 2 janvier dernier de 47 personnes, dont plusieurs opposants pacifiques. Comme Raif Badawi, son avocat Waled Abou Al-Kaher, qui faisait partie des 10 cas de la campagne 10 jours pour signer, fut le premier défenseur des droits humains à être condamné à l'issue d'un procès inique au titre de la loi antiterroriste. Des dizaines d'autres ont été incarcérés au titre de cette loi. de nombreux défenseurs des droits humains, faisant notamment partie de l'Association saoudienne des droits civils et politiques, qui était une association indépendante désormais dissoute. Ils ont eux aussi été condamnés à l'issue de procès unique. Donc les autorités d'Arabie Saoudite se servent de la loi antiterroriste de 2014 et du tribunal pénal spécial, tribunal antiterroriste de triste renommée, pour mettre un frein en fait à toutes les formes de militantisme, notamment en condamnant à mort et en exécutant des militants chiites, comme le chef religieux Nimr al-Nimr. On en a beaucoup parlé dans toutes les chaînes d'information. L'Arabie Saoudite a également pris la tête d'une coalition militaire qui, depuis mars 2015, a lancé des milliers de frappes aériennes dans les régions du Yémen contrôlées par le groupe armé Houthi. Ces frappes ont fait des centaines de morts parmi les civils et touché des infrastructures comme des centres de soins, des écoles, des usines, des centrales électriques, des ponts et des routes. On sait aussi que la coalition a utilisé des armes à sous-munitions. Alors je vous rappelle que ces armes sont complètement interdites en droit international. Ce sont des bombes en fait qui explosent et qui dispersent des centaines de petites bombes. Et on sait que de toutes ces petites bombes qui tombent sur le sol, il y en a à peu près 30% qui n'explosent pas et qui en fait deviennent des ce qu'on appelle les armes à sous-munitions, un peu comme des mines antipersonnelles. Et des enfants peuvent les toucher et se faire sauter ainsi. Voilà, donc c'est une arme qui a été complètement interdite par le droit international et on sait que la coalition qui lutte au Yémen a utilisé cette arme. Les autorités européennes et les États membres semblent avoir presque systématiquement privilégié leurs intérêts stratégiques et commerciaux au respect des droits humains dans leurs relations avec le Royaume d'Arabie Saoudite. Donc on est Amnesty très en colère pour ce soutien inconditionnel des démocraties envers un pays qui ne respecte pas du tout les droits humains. Alors si vous voulez agir avec nous, voilà ce que vous pouvez faire. Vous pouvez donc aller sur le site d'Amnesty International, envoyer un tweet au roi Salman d'Arabie Saoudite pour exiger la libération de Raif Badawi. On peut aussi écrire, et on a vu avec les témoignages tout à l'heure, un message de solidarité à Raif Badawi sur sa page Facebook, qui est animée par son épouse Ensaf Haidar, qui elle a pu s'enfuir et vit au Canada. Et puis, vous pouvez aussi signer la pétition pour demander la libération de Waled Abu Al-Kher, avocat qui a défendu de nombreuses victimes et militants des droits humains, dont Raif Badawi. Voilà, donc trois actions à faire sur le site d'Amnesty International. Maintenant, nous allons passer à nouveau Lenny Scudero dans une chanson qui s'appelle « Vive pour des idées ». Et qui nous montre que dans tous les régimes dictatoriaux, qu'est-ce qu'on supprime en priorité ? C'est l'éducation, la culture. Et Lenny Escudero, qui a vécu cette montée du fascisme en Espagne, l'a bien compris tout jeune. On le comprend dans la chanson. Et quand il est arrivé en France, il s'est mis en tête d'apprendre le français et d'être fort en français. Et d'ailleurs, il nous a dit que dans toutes les classes où il est passé, il a été le premier en français, alors qu'il était réfugié. Hein. Voilà. Donc on écoute cette belle chanson, « Vive pour des idées ».
Il était à Teruel et à Guadalajara, Madrid aussi le vit au fond du Guadarrama. Qui a gagné, qui a perdu, nul ne le sait, nul ne l'a su. Qui s'en souvient encore, faudrait le demander au mort. J'étais pas gros, je vous le dis, les yeux encore ensommeillés. Mon père sur une chaise assis, les pieds, les mains attachés. Et j'avais peur et j'avais froid, un homme m'a dit calme-toi. Un homme qui était différent, sans armes mais il portait des gants, une cravache qui lui donnait un air. Un peu de sang coulait sur la joue de mon père. Et j'avais peur et j'avais froid, l'homme m'a dit écoute-moi. Je vais te poser une question, la vie de ton père en répond. Dis-moi quelle est la capitale, voyons, de l'Australie australe. Je ne risquais pas de me tromper, on ne m'avait jamais parlé des grandes villes qui ont des noms si fiers. Une larme coulait sur la joue de mon père. Et j'avais peur et j'avais froid, j'ai dû pleurer aussi, je crois. Mais l'homme a eu comme un sourire, et puis je l'ai entendu dire. C'est un brave homme, coupez ses liens, ton enfant, tu l'éduques bien. Car tu as le sens du devoir, chacun son dû et son savoir, ils sont partis au petit matin clair. J'ai couru me blottir dans les bras de mon père. Il m'a serré fort contre lui, j'ai honte, tu sais mon petit. Je me demandais cette guerre, pour quelle raison j'irais la faire. Mais maintenant je puis le dire, pour que tu saches lire et écrire. J'aurais voulu le retenir, alors mon père m'a dit mourir. Pour des idées, ça n'est qu'un accident. Je sais lire et écrire, et mon père est vivant. Il était à Teruel et à Guadalajara, Madrid aussi le vit, au fond du Guadarrama.
C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de la photographe Leila Alaoui et du chauffeur Mahamadi Ouedraogo, qui ont été victimes de l'attentat perpétré par Al-Qaïda à Ouagadougou, qui est la capitale de Burkina Faso. Leila était une photographe franco-marocaine talentueuse qui était partie dans le cadre d'une mission d'Amnesty International au Burkina Faso pour réaliser un reportage photo sur les droits des femmes. Mahamadi Ouedraogo, quant à lui, était le père de 4 enfants. C'était un grand ami d'Amnesty International. Il accompagnait depuis 2008 le personnel et les conseillers venus en mission dans le pays. Nos pensées vont à son épouse, à ses enfants et à sa famille. Il va nous manquer terriblement. Mahamadi et Leila étaient garés devant le café Cappuccino en face de l'hôtel Splendid lorsque l'attentat a eu lieu. Mahamadi a trouvé la mort dans sa voiture. Leila a reçu 2 balles dans la jambe et le thorax avant d'être rapidement conduite à l'hôpital. Après avoir été opérée, elle se trouvait tout d'abord dans un état stable. Les préparatifs pour son rapatriement sanitaire étaient en cours, mais elle a succombé à une crise cardiaque. La priorité d'Absolu d'Amnesty International est d'apporter le meilleur soutien possible aux familles de Mahamadi et de Leila. Les représentants d'Amnesty se trouvent à l'hôpital et assurent la liaison avec sa famille, les médecins et tous les organismes nécessaires. Nous condamnons l'attaque violente contre les civils à Ouagadougou qui a tué et blessé des dizaines de personnes de différentes nationalités et de différentes religions.
Voilà, oui, c'était une triste nouvelle que c'est le décès de ces deux personnes qui étaient très proches d'Amnesty International. Voilà, nous allons maintenant parler un petit peu de l'activité du groupe Dinois. Donc nous avons mis une nouvelle exposition au CDI du lycée Pierre-Gilles de Gênes. Cette exposition s'appelle « Être là avec Amnesty International » et elle présente un album de bande dessinée pour adolescents et adultes qui s'appelle justement « Être là avec Amnesty International » et qui est composé de 30 récits qui sont illustrés par différents dessinateurs. Et l'auteur de ces récits est allé vivre avec les 30 personnes qui correspondent aux 30 reportages pour s'imprégner de leur histoire. Donc il s'agit soit de personnes qui ont été soutenues par Amnesty International puis libérées grâce à notre action, soit de chercheurs d'Amnesty International. Donc cette exposition, pour l'instant, elle est visible au lycée Pierre-Gilles de Gênes, à la disposition des lycéens. Et nous avons fait deux interventions dans ce cadre-là. Et la professeure nous avait demandé de parler de la liberté d'expression. Et on a donc travaillé sur un des reportages qui concerne en fait Donatella Rovera, qui est une chercheuse au sein du siège international d'Amnesty et qui est spécialiste des conflits en phase aiguë. Donc c'est une femme qui est extrêmement courageuse et c'est elle notamment qui est allée en Syrie, en Irak, pour ses reportages. Et donc dans cette recherche en tant que chercheuse d'Amnesty International, elle fait un peu une différence entre les journalistes, le travail de journaliste et le travail de chercheuse à Amnesty International. En fait, elle nous dit, alors je vais lire un petit extrait de cette bande dessinée concernant son reportage, et voilà ce qu'elle dit. La plupart des journalistes ne parlaient pas arabe, et il y avait certains freelances qui allaient en Syrie sans argent. Ils partaient avec un groupe rebelle, mangeaient chez eux, dormaient chez eux, se prenaient en photo les armes à la main. Pendant longtemps, il y a eu ainsi la peinture des forces de l'opposition comme les héros, les bons gars. Je parle souvent avec des jeunes reporters. Ils s'identifient un peu. Ils prennent les rebelles pour des amis. Mais non, ce ne sont pas des amis. Je suis bien trop cynique pour croire que celui qui a un flingue, qui a le potentiel de mal utiliser, est un ami. Par exemple, je suis revenu quelques mois après la fin de la guerre en Libye et j'ai retrouvé des gars très sympathiques que j'avais connus. Ils géraient maintenant des centres de torture. Et ça, en l'espace de quelques mois. Plus le conflit dure, plus il devient complexe, polarisé et difficile à apaiser. Comme c'est souvent le cas, ce sont des civils qui en payent le prix. Par rapport à nous, les journalistes ont deux luxes. Le premier est de pouvoir rapporter des témoignages sans nécessairement devoir enquêter et vérifier. Le second est qu'ils peuvent tout le temps changer d'idée. Je ne dis pas qu'on est mieux ou pire, mais c'est différent. Il y a par contre des journalistes d'investigation qui font le même travail que nous. Voilà. Donc en fait, le travail de chercheur d'Amnesty International, c'est ne pas nécessairement croire ce qu'on nous dit, mais c'est tout un travail de recueil de témoignages, mais aussi de vérification de ces témoignages, parce que les personnes peuvent mentir, même dans des camps de réfugiés, les personnes qui ont fui la guerre peuvent aussi mentir. Donc il faut sans cesse se méfier, recouper les informations, parce qu'Amnesty ne peut pas se permettre de se tromper, de dire des choses qui sont fausses. On a cette notoriété hein, qui fait que quand Amnesty dit quelque chose, on n'a jamais été pris en défaut. Et donc c'est grâce à ce travail qui n'est pas toujours fait par tous les journalistes. Alors elle compare un peu son travail aux journalistes, aux vrais journalistes d'investigation qui, recoupent leurs informations et ne croient pas tout ce qu'on dit. Et c'est vrai qu'on a toujours un peu tendance à se dire, bon, les rebelles, peut-être qu'au départ, les rebelles, oui, c'est sûr que, qu'est-ce qu'ils demandaient? Ils demandaient de la démocratie. Et puis, bon, mais ces rebelles ont été rejoints par des personnes qui n'avaient peut-être pas les mêmes intentions et depuis, c'est devenu extrêmement complexe. Et on n'a plus les bons d'un côté et les méchants de l'autre, voilà. Donc c'était intéressant avec les jeunes de discuter par rapport à ce témoignage de cette chercheuse d'Amnesty International sur cette liberté d'expression et sur l'information, comment elle est diffusée, voilà, et à leur apprendre à ne pas tout croire, à vérifier, à aller un petit peu dans différents réseaux pour savoir, pour se faire un peu une idée, sans penser que ce qu'on nous dit est toujours forcément vrai. Voilà. Alors, pour rester dans les livres, Être là, c'est un livre qui est publié par Futuropolis. Vous pouvez le trouver en librairie. Nous en avons offert un numéro aussi à la médiathèque de Digne. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller l'emprunter. Ensuite, je vous signale la parution d'un petit livre qui s'appelle « Déclaration universelle des droits de l'homme » illustré. C'est aux éditions Chêne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est bien illustré par différents artistes. Et puis surtout, vous l'avez à 2,90€. Donc pour 2,90€, vous avez la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un texte capital qui n'est pas assez connu, hein, et chaque citoyen devrait s'en emparer, le lire pour pouvoir revendiquer ses droits. Alors, autre information du groupe Dinois. Donc, demain, nous avons, le mardi 26 janvier à 18h, notre réunion du groupe. Donc, on va faire une petite assemblée générale où on va un petit peu résumer le travail de 2015. Et puis, parler un peu des projets futurs. Et puis, en même temps, ben, on va aussi dire au revoir à un de nos amis membres du groupe, qui va partir en Guadeloupe, hein, puisque Pierre, que Odile, tu le connais, et sa femme ont décidé de retourner en Guadeloupe. Donc, ils vont bientôt partir. Et ils viennent à cette réunion pour nous dire au revoir. Bon, je sais bien qu'une fois en Guadeloupe, il ira vite rejoindre le groupe d'Amnesty, qu'il attend impatiemment. Voilà, donc notre réunion demain, mardi 26 janvier à 18h, s'il y a des auditeurs qui veulent venir voir un peu comment ça se passe, c'est à la salle des associations, à côté de la mairie de Digne. Ensuite, on va participer en mars à un festival de films qui s'appelle « Au cœur des droits humains », qui est initié par la région Alpes-Maritimes. Et ils ont voulu étendre un petit peu ce festival aux régions voisines. Donc, on va faire passer un film le mardi 29 mars à 18h30 au Ciné-Étoile de Digne. Donc ce film s'appelle Zaneta. C'est un film sur les Roms et sur les discriminations dont ils sont victimes. Et ce sera donc en présence du réalisateur Petr Václav. Voilà, le mardi 29 mars à 18h30 au Ciné-Étoile. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis je vous annonce déjà notre foire au livre du printemps, le 29 et 30 avril, donc vendredi 29 et samedi 30 avril, à l'Atrium. Bon, alors c'est un petit peu tôt pour en parler, mais si jamais vous vouliez, vous aviez des livres à nous donner, vous savez que nous ne vendons que des livres que l'on nous donne. Nous avons des milliers de livres et tout ça, ce sont des dons qui sont faits au profit de notre mouvement. Vous pouvez nous appeler au 06 81 34 18 83. Voilà, je répète, 06 81 34 18 83 pour des dons de livres. Voilà, et puis vous dire aussi, on a beaucoup parlé sur cette antenne de Biram Dahabé et Ibrahim Bilal Ramdam, qui sont deux militants défenseurs des droits humains mauritaniens en prison pour avoir manifesté contre l'esclavage qui sévit toujours dans ce pays. Ça fait un an, 2 mois et 14 jours exactement qu'ils sont en prison, juste pour avoir manifesté contre cette violation de la dignité humaine, la pire qui soit, puisque c'est considéré d'autres personnes comme des objets. Voilà, ils ont leur association a reçu un nouveau prix. Hein, ils ont déjà eu le prix des droits de l'homme de l'ONU, le prix Frontline Defenders. Et là, en décembre 2015, ils ont reçu le prix Tulip, qui est un prix donné par la Hollande, bien sûr, Tulip. Voilà, c'est un prix important. Mais malgré ça, le président Aziz, le président de Mauritanie, continue à en faire une affaire personnelle et à maintenir ces deux défenseurs en prison alors que les esclavagistes jouissent d'une grande liberté dans ce pays malgré tous les textes qu'ils ont signés pour lutter contre l'esclavage. Voilà, donc la Mauritanie, le pire pays en ce qui concerne l'esclavage. Voilà, et puis on va peut-être terminer cette émission par une chanson un petit peu plus gaie, qui nous rappelle que la Terre est un jardin et que ça serait bien de maintenir ce jardin pour les générations futures. On écoute Moustaki.
Défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin, une maison. Avec un lit de mousse pour y faire l'amour, et un petit ruisseau roulant sans une vague venait le rafraîchir et poursuivait son cours. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin grand comme une vallée. On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons. Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée. Et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il était assez grand pour des milliers d'enfants. Il était habité jadis par nos grands-pères. Le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. La la la, la la la, la la la. Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître? Où nous aurions pu vivre insouciants et nus? Où est cette maison, toutes portes ouvertes, que je cherche encore et que je ne trouve plus. La la la, la la la, la la la, la la la.
Voilà. Alors Nicolas, tu voulais nous rappeler
Ouais, il faudrait quand même qu'on redise à nos auditeurs qu'est-ce qu'il est possible de faire de leur côté avec Amnesty International. Déjà, les 10 jours pour signer, ça continue. Vous pouvez toujours aller sur 10jourspoursigner.org. Sur le site d'Amnesty. Le site d'Amnesty France, donc amnesty.fr, où vous pouvez signer les pétitions qui ont été sur le site des 10 jours pour signer, et d'autres pétitions donc, qui peuvent apparaître chaque mois. Et puis, pour, par exemple, le Guantanamo aussi, d'aller sur Twitter et donc interpeller Barack Obama pour la fermeture définitive de Guantanamo.
Voilà, donc sur le site, n'hésitez pas à y aller régulièrement parce que régulièrement, il y a de nouvelles pétitions. J'ai vu qu'il y en avait une aussi concernant les enfants en République démocratique du Congo qui travaillent dans des mines pour chercher du cobalt dans des conditions terribles. Et on interpelle donc les sociétés qui fabriquent les téléphones portables, les ordinateurs, tout ça, parce que dans les... notamment dans les batteries qu'on appelle lithium-ion, il y a ce cobalt qui est extrêmement dangereux quand il est ramassé dans des conditions et par des enfants en plus. Donc on leur demande, est-ce que vous avez vérifié que le cobalt que vous achetez ne provient pas de sociétés qui utilisent les enfants au travail ? Voilà, donc c'est important que ces sociétés prennent leurs responsabilités pour lutter justement contre l'exploitation des enfants très jeunes. Voilà, donc ces actions sont à faire sur le site régulièrement. Et puis si vous voulez faire plus, vous pouvez bien sûr adhérer à Amnesty International parce que vous renforcez notre pouvoir, plus on est nombreux. Plus on a de pouvoir face au gouvernement, aux sociétés multinationales que l'on interpelle régulièrement. Et puis, si vous êtes dans la région de Digne, vous pouvez aussi rejoindre le groupe d'Amnesty International pour participer à nos actions d'éducation aux droits humains, de divulgation des informations, etc. Voilà, donc on serait très content de vous y accueillir.
Et si vous êtes au lycée Pierre-Gilles de Gênes, vous pouvez aller rendre visite à l'antenne jeune donc, qui s'est créée cette année, enfin en 2015, pour mener des actions de militantisme avec les jeunes qui ont créé l'antenne jeune.
Voilà tout ce que vous pouvez faire. Et donc on vous dit bon mois de janvier. Et puis,
on se retrouve lundi du mois de février.
Voilà.
Voilà. Merci Régis, merci Nicolas. Et à bientôt. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.